Conversation avec Sylvia Blotringer, deuxième partie.
Signifie hein, pour toi. Donc, on sait ce qu'elle ne signifie pas pour toi, c'est-à-dire que tu ne l'orientes pas vers l'académie, c'est-à-dire commentaires, analyses, donc qui finalement surcode, surcharge un texte. Donc, c'est pas du tout académique, c'est pas donc une activité strictement universitaire. Donc, la théorie. Qu'est-ce que c'est que pour toi la théorie, si tu avais une définition courte?
C'est se donner des instruments pour penser le présent. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne sait jamais exactement ce que le présent est. On sait très bien, on a des catégories ou des modes d'analyse qui sont tout faits, mais le présent, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est à faire. Et la théorie, ça permet précisément, parce que c'est en même temps prédictif, ça anticipe, mais ce qu'on anticipe, c'est en fait le présent. On n'anticipe pas l'avenir, parce que le capitalisme lui-même, parce que c'est ça, la bête, c'est le capitalisme. Comment comprendre le capitalisme?
Anticiper le présent, attends. Comment anticiper le présent?
Anticiper le présent, ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est engagé dans une réalité. On ne peut pas faire autrement. La réalité n'est pas quelque chose qu'on... Je ne sais pas si c'est réel, mais dans quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans toutes les situations? Comment est-ce qu'on traite de situations? Situations personnelles, situations politiques, situations universitaires. Partout où on a, toujours des décisions à prendre. Comment est-ce qu'on prend ces décisions? C'est en fonction du savoir qu'on peut avoir ou de catégories qu'on a à sa disposition pour comprendre des situations qui sont aussi qui peuvent être très simples ou qui peuvent être globales. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? C'est là où la théorie intervient. C'est que maintenant, on est à un point où jamais les choses n'ont été aussi vite, par exemple, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vitesse. Quel effet est-ce que la vitesse a sur ce qu'on appelle la réalité? Quand les informations vous arrivent, qu'est-ce que c'est que de recevoir des informations qui sont immédiatement remplacées par d'autres informations? Que ce qui arrive dans un point du monde, on le connaît au moment où ça arrive. On est en train de massacrer des gens, on sait que les gens sont massacrés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Donc le problème, c'est de savoir, pas simplement de rester au niveau de l'information, mais de savoir que l'information, c'est déjà la transformation de la réalité. Que la réalité par l'information, c'est déjà une réalité reportée, représentée, un faux présent. On vit dans un faux présent qui est le présent de la vitesse, par exemple.
Est-ce que la théorie arrête cette vitesse?
Non, la théorie, ça me permet de penser qu'est-ce que c'est que de connaître le monde à la vitesse où on la connaît.
Donc il faut expérimenter cette vitesse.
Il faut expérimenter, il faut au moins pouvoir la lire, non pas dans la vitesse qui est là, mais dans le rapport qu'elle a, par exemple, à certains contextes auxquels on n'est pas connecté, mais aussi des contextes où on peut avoir certains savoirs, etc. Donc il faut reconstituer la réalité en utilisant les instruments qui sont à notre disposition, mais en sachant que ces instruments, en même temps, nous empêchent d'avoir accès à cette réalité apparemment qu'on nous donne. C'est ça. Donc la théorie, elle permet de penser, par exemple, qu'est-ce que c'est que communiquer? Qu'est-ce que c'est que l'effet que la vitesse a sur l'environnement tout entier? Pas seulement que les choses vont vite, mais que les choses vont vite à la vitesse de la lumière, ça change complètement la perception qu'on a du monde. Donc, il faut comprendre quel genre de modification du monde est produite pour pouvoir apprécier ce qui circule.
Et pour comprendre ce monde-là, c'est certainement pas... en restant dans l'université ou en restant derrière...
Non, mais l'université, finalement, elle-même, l'université ne reste pas dans l'université. Par exemple, à l'Université de Columbia, ils ne restent pas à l'université parce qu'ils investissent dans la bourse, parce qu'ils reçoivent du fric ici, parce qu'ils sont connectés, ils sont concurrents à d'autres universités. C'est une corporation comme une autre. Donc, l'université se donne les apparences d'un institut de savoir, mais en fait... La manière dont nous sommes payés, la manière dont les étudiants sont recrutés, le prix qu'ils payent, etc. Tout ça, ça fait partie du capitalisme. Le capitalisme reterritorialise ces ondes ou ces flux d'argent sur un territoire qui est un territoire apparemment de savoir, désintéressé, etc. Mais le savoir n'est pas désintéressé. Ce qui se passe, les promotions qu'il y a, les gens, tout ça, le système de stars, la manière dont l'administration elle-même fonctionne comme une corporation, mais traite les gens comme des académiques.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'était, c'est pas en restant dans une espèce de contemplation qui est souvent rattachée aux études universitaires.
Oui.
Il faut quand même si la vitesse, comme tu dis, est rentrée à l'université, c'est-à-dire qu'elle fait partie du monde également, oui. L'université, nous, quand on approche donc cette vie-là dans l'université, il faut quand même sortir un peu des études universitaires qui sont, elles, liées à un savoir livresque, à une contemplation. Oui. Et là, je n'irais pas jusqu'à dire une contemplation des essences, là, mais c'en est presque par moment.
Il faut échapper à la fétichisation du texte. Malheureusement, c'est ce qui se produit constamment. Alors, oui, je m'étais désintéressé de Derrida, non pas parce que c'était intéressant, mais parce que ça ramenait au texte. Et ici, surtout aux États-Unis, le texte, comme l'université, n'a pas grande importance. C'est-à-dire que les gens utilisent, ils font des lectures rapides, comme on dit. Ils n'ont pas de fétichisation du texte. Le langage, la fétichisation du langage, c'est même un phénomène français. Donc on a importé des systèmes où le langage a beaucoup d'importance. Même les gens qui ne sont pas forcément comme Foucault, Deleuze, Guattari, qui cherchent toujours à faire sortir le langage du côté et à brancher ou à faire du langage une manière d'entrer dans des situations, pour ne pas appeler la réalité. Bon, même les gens lisent ces textes comme des objets esthétiques, en quelque sorte. Ils ont un langage particulier qu'il faut, sur lequel il faut travailler pour y avoir accès, que donner accès, ça vous donne une supériorité sur ceux qui n'ont pas accès. Les États-Unis, c'est comme ça que la théorie est lue. Elle n'est pas lue parce que c'est une théorie qui vous donne telles idées sur telles choses, mais c'est parce que c'est il vous donne des idées différentes. Donc, si ça vous donne des idées différentes, on peut acheter de la différence en ayant accès à cette théorie. À partir de là, cette théorie entre dans un système qui est une scène de compétition, qui est une scène de circulation, de mode, etc. C'est-à-dire que la théorie passe par le système capitaliste, qui est le système de mode.
Mais là, elle est pratiquée.
Elle est pratiquée, mais d'une manière qui n'est pas forcément théorique. Ça, parce que l'idée de la théorie, c'est pas qu'elle se retourne sur elle-même, c'est qu'elle s'essaime partout. C'est-à-dire que quand on prend un verre de vin, c'est de la théorie. La théorie n'est pas.
Quand on prend un verre de vin, c'est de la théorie.
Bien sûr, tout est de la théorie. Comme la réalité est partout, la théorie est partout. C'est Deleuze qui disait je veux être philosophe, je veux sortir de la philosophie, mais en philosophe.
Voilà.
C'est ça. Et il faut. On sort peut-être pas de la philosophie, mais comme on sort de la philosophie académique. Il faut voir que la philosophie, elle est partout. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a besoin d'apprécier les choses, on a besoin de les ramener à certains codes, d'anticiper les choses, de lire les choses qui se passent en ce moment. On a besoin de codes pour ça. Ce n'est pas à l'œil nu qu'on le voit, parce que ce qu'on voit à l'œil nu, c'est une certaine apparence qui circule, que consomme, c'est la société de consommation. Comment est-ce que ça fonctionne, la société de consommation? Quels sont les signes dans la société de consommation? Qu'est-ce qui se passe quand on passe des signes au digital? C'est plus des signes, les digitales. C'est pas des signes en signifiant, signifié. Ça n'a plus de signification, les signes. C'est des bits. Bon. Qu'est-ce que c'est que vivre dans une société de bits et non pas une société de signes? C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on demande à décoder et à interpréter, c'est pas le décodage et l'interprétation qui compte. Maintenant, c'est le fait que les signes vont dans tel endroit ou qu'ils vont ailleurs ou la vitesse à laquelle ils se déplacent. C'est ça. On est bien au-delà de la signification. Mais on a besoin de rabattre les choses sur la signification, et donc c'est la fonction de l'université. La fonction de l'université, c'est d'arrêter tous ces flux, de les matérialiser sur un texte, et puis de faire du texte un objet, qui est un objet spécial, avec lequel on a une certaine vénération, et qu'on soumet à certains codes. Mais les codes auxquels on le soumet ne sont pas forcément les codes qui correspondent au présent. Parce que dans le présent, à la limite, c'est pas la signification qui compte. Les significations, les représentations, c'est devenu une espèce de smog, de barrage, etc., qui nous empêche de voir ce qui se passe réellement. Il faut accéder à la machine. Qu'est-ce que c'est la machine? Elle fonctionne de tous les côtés en même temps. Par le langage, par les gestes, par l'argent, par les couleurs, etc. C'est là où on retrouve la sémiotique. Rien n'est en dehors de ça, et donc rien n'est en dehors de la théorie. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, quand on lit les nouvelles, bon, les gens, lorsqu'ils parlent, lorsque l'Iranien dit telle et telle chose, c'est un langage codé. Donc, il nie le Holocauste. Bon, il sait très bien les effets que ça va avoir. Bon, quand dans un cadre diplomatique, on a dit le président a exprimé ses regrets que... Bon, ça veut dire qu'il y a eu des massacres. Bon, alors, les regrets, c'est une certaine manière codifiée. C'est pas nouveau, tout ça, que tous les langages sont codifiés.
Donc, c'est quand même une certaine conception assez traditionnelle de la théorie, dans un certain sens, c'est-à-dire que la théorie nous permet d'avoir conscience de quelque chose, nous permet d'avoir
une
distance, mais...
Mais ici, de prendre une certaine distance, parce que ce qu'on donne comme la spontanéité, ce n'est pas de la spontanéité. Ce qu'on donne comme la réalité, ce n'est pas la réalité. Il faut constamment, vis-à-vis de quand on voit les nouvelles à la télévision, il faut bien sûr prendre une distance, parce qu'il faut relire ça en fonction de ce qu'ils ne disent pas, en fonction de ce que la vitesse et la réduction de l'information aux news permet de dire. Tout ce qui en fait fait l'importance n'est pas là.
Donc s'il y a une distance, si la théorie met une distance ou nous met à distance...
Mais c'est la contemplation, le mot théorie, c'est ça. C'est de prendre une certaine distance par rapport aux événements. C'est-à-dire on les fait passer par un processus qui est un processus d'intellection.
On se revient finalement à l'étymologie du mot, hein, contemplation, oui. La théorie. Comment t'expliques d'abord quand tu dis que tu décris la théorie comme quelque chose qui doit devenir pragmatique, donc une théorie Oui, donc j'aimerais t'entendre parler un peu sur cette idée donc, que la théorie doit devenir pratique, ou du moins elle doit saisir le concret, ou du moins se faire fond avec le concret.
C'est là où peut-être le mot d'interprétation porte à interprétation, et pragmatique aussi. Bon, dans la mouvance de Guattari, c'est plutôt dire qu'il faut expérimenter avec les choses. Oui, à l'intérieur d'un contexte dont on possède certaines données, certaines connaissances. Ouais. Étant donné certaines connaissances, par exemple, la théorie française devient populaire en 82-83. On dit, bon, très bien, hein, pourquoi ? Nous, on lance la théorie, c'est très bien que ça devient populaire. Pas du tout. À partir du moment où ça devient populaire, on enregistre le fait que ça devient populaire, et donc on rentre dans une zone différente. Comment ça fonctionne, cette zone-là ? Ça ne fonctionne pas à l'intellection. Ça fonctionne selon des modèles différents, qui sont des modèles de nouveauté, qui sont des modèles de promotion, qui sont des problèmes de compétition, qui sont des problèmes de mode. Donc on sait déjà à l'avance que la théorie va être déviée comme un bâton, on le fait rentrer dans l'eau, bon, on va le lire différemment. Donc immédiatement, il faut se dire, attention, à ce moment-là, je me dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer ? On est resté un petit peu dans l'underground. Quand on arrive à un niveau de visibilité comme celui-là, d'abord, on risque de se faire bouffer, de se faire récupérer, de trop s'y laisser prendre. Hein, c'est ça le début de la fin. Comment est-ce qu'on va manœuvrer ? C'est ça. Comme on ne sait pas très bien, la réalité, elle change constamment. Donc, nouvelle réalité, la Frenchery devient quelque chose d'autre qu'elle n'était pas. Ce n'est plus la Frenchery. De même que l'art, maintenant, ça fonctionne différemment, ce n'est plus de l'art. C'est autre chose. Il ne faut plus le considérer comme la Frenchery. C'est l'objet commodifié qui s'appelle French Theory. Comment ça va aller ? Ça va, en gros, aller selon le même fonctionnement, les mêmes modèles que la mode des vêtements, que le haut et le bas du stock exchange, etc. Mais c'est surtout le système de la mode. Baudrillard avait raison. Le système de la mode, qui est complètement formalisé et incompréhensible, en quelque sorte, ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça marche. Il y a eu la mode, c'est ça. Quand la théorie est arrivée au niveau de la mode, à ce moment-là, c'était complètement arraché à ses déterritorialisés, arraché à ses racines premières, arraché à son mode de fonctionnement propre, arraché à son utilité propre, pour devenir utile au système lui-même. Le système va l'instrumentaliser pour son propre, pour ses propres raisons. Quelles sont les raisons ? Ça va être des raisons de prestige, ça va être des raisons qui sont complètement celles du système et pas du tout celles de la théorie.
Mais vous voulez vous éloigner, ou du moins vous n'avez jamais pris ce...
Non, parce que j'ai très bien compris qu'à ce moment-là, ça nous échappait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous, on s'est dit, bon, si les Américains s'intéressent à la théorie américaine, nous, on va chercher qu'est-ce qu'il y a dans la culture américaine qui peut remplacer la théorie française. Inventer une pratique américaine qui correspondrait à ce que la théorie française s'était donnée pour but de faire, mais que les Américains vont pervertir.
Mmh. C'est ça. Donc on peut renouveler la théorie. Donc d'un côté, il y a la théorie pour vous garde une, on garde une distance critique, elle est contemplation, mmh. mais d'un autre côté également, elle est action, c'est-à-dire qu'elle elle peut se changer tout dépendant des, de la manière dont on la pratique.
Bon, par exemple, cette idée que le capitalisme, c'est un processus par lequel il déterritorialise, puis il reterritorialise. C'est une idée très simple. Quand quelque chose, quand un nouveau marché se fait, on territorialise le marché, puis ça se déterritorialise parce qu'il faut retirer du profil, il faut retirer des signes, etc. À partir du moment où la théorie française a atteint un certain niveau de visibilité, c'était une déterritorialisation. La théorie française n'était plus française, mais elle devenait américaine. Donc elle fonctionne, elle était devenue un territoire américain. Comme c'était un territoire américain, les gens vont l'exploiter. Ils vont en tirer de l'argent, ils vont en tirer des signes, ils vont en tirer des prestiges, ils vont en tirer, etc. Tout ça, ça n'a plus rien à voir avec la théorie du tout.
Non, parce que là, il n'y a plus la distance critique, il n'y a plus cette volonté de connaître ce qui se passe.
Cela dit, ça existe en même temps, parce que les choses sont différentes. Sur le niveau universitaire, les gens vont prendre ça comme des nouveaux modèles d'interprétation. Foucault, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avec Foucault ? C'était le plus proche, si tu voulais, d'une certaine... une certaine théorie radicale qui est celle du contrôle, du pouvoir, etc. Ils n'ont pas très bien compris que Foucault mettait en morceaux la conception du pouvoir qui venait d'en haut, etc. Mais ici, on a besoin d'avoir une idée de pouvoir qui vient d'en haut parce que ça simplifie les choses. On peut se battre contre quelque chose. Les Américains, ils ont besoin de se battre contre quelque chose. Le pouvoir, il est partout ici, bien que, comme le montre très bien Foucault. Oui. La sexualité est partout, elle est plus réprimée. Elle varie selon les environnements. Oui. Mais rien n'est réprimé ici. Tout est à la fois réprimé et exhausté, c'est-à-dire et relevé. Donc il faut bien se rendre compte qu'il faut pouvoir comprendre où les choses se passent.
C'est très difficile. À quel moment tu t'es rendu compte que la théorie française en Amérique prenait ce tournant-là
On a pris ce tournant nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai fait mon deuxième numéro de sémiotexte en 82. Et bon, chaque numéro, ça me prenait 3, 4, 5 ans à faire.
Avec énormément de collaborateurs.
Et puis c'est seulement récemment qu'on a eu les ordinateurs. On faisait ça avec la langue. On faisait les corrections, les collets sur chaque ligne, etc. Donc c'était un vrai travail. Et puis la mise en page, bon, c'était aussi le vrai travail intéressant à faire. Bon, à partir de ce moment-là, je me dis, j'ai fait des numéros de sémiotexte pendant 10 ans. Ça prend tellement de temps que je vais encore faire 10 numéros dans ma vie. Donc, peut-être que je passe à autre chose. Donc, je me suis dit, tiens, puisqu'on a 5000 lecteurs, puisqu'on arrive à vendre 5000 exemplaires de la revue, on pourrait publier des textes. Alors, les textes resteraient sur les étagères plus longtemps que la revue, et ça circulerait, ça toucherait plus de gens, etc. Alors, bien sûr, il fallait abandonner la mise en page un peu particulière, mais l'équivalent de la mise en page très, très collage, qui était celle de la revue, ça a été de présenter des textes purs.
D'où est né Foreign Agent.
C'est ça. Alors l'idée aussi de l'appeler Foreign Agent, c'est que moi je prends les choses littéralement. On va nous accuser d'être des étrangers. Alors on se définit soi-même comme des étrangers. Foreign Agent, c'est des agents d'étrangers qui sont enregistrés à Washington. Donc déjà, c'est l'idée. Il faut prendre la théorie avec un peu d'humour. Il faut que la théorie soit prise littéralement, c'est-à-dire pas comme un objet qu'on va montrer, qu'on va épingler sur sa veste. Mais comme quelque chose qui doit s'immiscer partout.
Donc c'est à ce moment-là, finalement, que tu te rends compte que la théorie française aux États-Unis commence à être récupérée pour des questions de prestige.
Oui.
Et donc on produisait énormément de commentaires, d'analyses qui augmentaient son
prestige. Oui, mais c'est aussi que c'était le moment où, par exemple, le monde artistique a toujours précédé le monde universitaire. C'est-à-dire que les artistes s'intéressaient à la sémiotique avant même de savoir ce que c'était que la sémiotique. C'est ça, le schizoculture, les gens se sont précipités parce qu'ils voulaient savoir ce que c'était la sémiotique.
Il y avait un nouveau signifiant qui circulait.
Exactement.
Donc il fallait...
Un signifiant qui commençait à prendre du prestige, il était sans contenu, mais il avait du prestige avant même d'avoir du contenu parce que c'était le processus d'inclusion-exclusion qui jouait. Donc les gens se sont précipités, c'est pour qu'on a eu des gens qui venaient de partout, qui disaient « on veut savoir ce que c'est que la sémiotique ». Mais on n'a pas parlé de sémiotique du tout pendant le colloque, ça n'a rien à voir avec la sémiotique. Donc on était nous, déjà en avance par rapport à... Mais on n'était pas en avance par rapport à ce qui allait se faire, puisque immédiatement... Ah, c'est pas vrai d'ailleurs, en 75, on avait 20 ans d'avance. Mais 5-7 ans plus tard, c'est fini. On nous avait rattrapés.
Mais donc, Foreign Agent est né d'une certaine manière pour s'éloigner de cette théorie qui était récupérée.
Non, c'était avant que la théorie soit récupérée. On a participé au processus de diffusion qui a amené la récupération. Ça, en 82...
Avec Semiotex et Foreign Agent.
Avec Foreign Agent, on a publié 3 livres. Il y avait un livre de Deleuze-Guattari, un livre que j'ai fait avec Virilio, et le petit livre avec Baudrillard qui s'appelle Simulation, qui n'existe pas en France, mais que j'avais fait ici. Il s'est trouvé... Tout ça, les choses ne sont pas prévues. La théorie, ce n'est pas de prévoir ce qui va arriver, c'est de pouvoir prendre les choses qui interviennent sans qu'on s'y attende et de comprendre qu'ils ont intervenu. Qu'est-ce qui est intervenu? C'est ça. Quand j'ai publié le petit livre de simulation, dont nos livres n'étaient pas connus du tout, or il s'est trouvé que, c'est toute une histoire à raconter, mais il s'est trouvé que le monde artistique était sur le point de subir une mutation. Cette mutation s'est faite en deux mouvements, hein, que j'ai bien compris. Ici, il a commencé à y avoir le punk, enfin, on a essaimé avec le punk sur l'Angleterre, etc. Donc il y avait une scène de clubs, de musique, de rock, etc., qui se formait. Il y avait les clubs, donc les discos, c'était déjà un accès aux médias. Et puis en même temps, la peinture qui était un art fini, on ne faisait plus de peinture aux États-Unis, c'était vraiment vieux jeu, c'était aussi commercial. Les artistes ne voulaient pas participer au commerce, ils voulaient rester des artistes. Donc si on fait l'art minimal, il y avait tous ceux qui essayaient de faire des choses qui n'étaient pas des objets. Bon, l'art conceptuel, ce n'était pas des objets. Donc pendant 20 ans, les artistes américains ont fait leur possible pour échapper au consumérisme. Et tout d'un coup, l'art de Chevalet est revenu d'Europe avec l'art allemand néo-expressionniste et l'art italien néo-expressionniste qui sont revenus aux États-Unis souvent sous le drapeau de Deleuze-Guattari. Parce qu'il venait, d'ailleurs, c'était le moment où il y avait le terrorisme, c'était la fin des années 68, etc., du mouvement des années 60 qui se répercutait sur les jeunes en Europe. Tout ça, ça a ramené la peinture expressionniste aux États-Unis, où il n'y avait plus d'expressionnisme du tout. Et du coup, la peinture sur toile est revenue en honneur à cause de l'Europe. Et alors, dès que la toile est revenue, dès que les tableaux sont revenus, les galeries ont commencé à se multiplier parce qu'ils avaient quelque chose à vendre. Dans les années 70, j'allais dans les galeries, ils me disaient « Nous, on n'achète pas, parce que c'est un petit bout de papier, une consigne, un truc qu'on va faire sur un mur. Nous, on n'achète pas, c'est pas une marchandise. » Lorsque la marchandise est revenue, les Américains se disent « Bah oui, alors il y a une nouvelle école qui était le East Village, qui faisait de la peinture un peu cartoon, etc. comme ça. » Bon. Et tout ça ça a permis la constitution d'un vrai marché de l'art à partir de 82-83. En 82-83, ce qui s'est passé, c'est que dans le domaine visuel, la peinture allemande, italienne, a été concurrencée par la nouvelle vague américaine qui, elle, avait fait le saut et qui a utilisé la photographie, c'est le grand néo-conceptualiste. Ils ont commencé à faire des photographies, c'était un art conceptuel mais qui produisait des objets. Du coup, la photographie est devenue le grand art nouveau des années 80. La peinture a suivi et donc en quelques années, le monde artistique a éclaté, est devenu un monde qui était tout à fait nouveau, que les gens ne savaient pas contrôler. Et c'est là où la French Theory est venue. Ah ben voilà, on va avoir des gens qui vont nous dire qu'est-ce que c'est que l'art, qui vont dire comment on fait de l'art, etc. Ils ont vu Simulation, c'est ce qu'on appelait la période de réappropriationniste du Champien. On prenait de la publicité et on la photographiait d'une certaine manière, de telle manière que la publicité, qui était un objet commercial, devenait un objet critique de la publicité. C'est une critique des médias. Alors, dans le fond, c'était cette idée qu'on pouvait critiquer les médias. On ne peut pas critiquer les médias. Dès qu'on critique les médias vous emportent parce qu'on utilise le même médium que les médias. Donc lorsqu'ils ont fait des réappropriations des médias, ils ont été réappropriés par les médias, c'était fini. Mm-hmm. L'art est devenu commercial de tous les côtés.
Oui, donc c'est à ce moment-là, quand l'art redevient un marché, devient commercial, que la théorie également française devient elle-même aussi.
Bien sûr. Alors, les gens se sont tournés partout. On avait une nouvelle génération de jeunes artistes sortis des écoles d'art qui n'étaient pas formés, qui n'avaient pas été formés pendant 10 ou 15 ans solitairement à devenir un artiste. Non, ils vont dans une école d'art pendant 2 ans, ils débarquent à New York. Et puis, il y a des galeries qui se multiplient, etc. Ils ne savent pas très bien, il n'y a pas d'école, il n'y a plus vraiment d'esthétique commune.
Donc, tu prends conscience de ce phénomène-là,
du
marché de l'art, et aussi du marché de la théorie
Exactement.
Qui marche ensemble avec l'art. Et qu'est-ce que tu fais, là, à ce moment-là?
À ce moment-là, il s'est placé. Ce qui m'a fait comprendre ça, c'était par le phénomène Baudrillard, l'effet Baudrillard. Baudrillard lui-même ne connaissait absolument
c'est
pas.
C'est vraiment l'épiphénomène, Baudrillard, et c'était apparent là, ce qui arrivait avec la récupération.
C'était le Foucault d'après. C'est-à-dire, il faut toujours, comme c'était une espèce de milieu médiatique lequel c'est devenu, il fallait tout de même avoir le maître à penser. Comme il ne pensait pas, et la théorie française ne les a pas aidés à penser, comme il ne pensait pas, il voulait des maîtres à penser.
Oui, ça fonctionne avec le pouvoir.
Avec le pouvoir.
Il faut
déléguer à des gens comme ça. Et donc, il s'est créé une. Dès que les gens ont lu ou ont acheté le bouquin, ils ont intégré le livre même dans des installations, etc. Le livre est complètement fétiche. Et tout ce qui avait à voir avec la simulation a été fétichisé. Une école simulationniste s'est créée, une école anti-simulationniste. Les féministes ont fait des événements contre la simulation, etc. Ça n'avait rien à voir avec Baudrillard. Alors, Baudrillard était invité au Whitney Museum en 77. Mm-hmm. Les places étaient retenues, mais un an à l'avance. Et Baudrillard leur disait finalement, il parlait de Andy Warhol, etc. Mais les artistes n'avaient pas pu avoir de ticket pour aller assister à ça. Donc, j'ai organisé une conférence de Baudrillard à Columbia. Des centaines d'artistes sont venus, ils ne comprenaient rien à ce que disait Baudrillard, mais ils se sont adressés à lui après la conférence. Ils disaient, Monsieur Baudrillard, qu'est-ce que vous pensez de l'école situationniste ? Le situationniste, simulationniste. Mm-hmm. Hein, c'est pas la même chose. Situationniste, c'est d'où Baudrillard vient tout de même. Mm-hmm. Alors Baudrillard a dit, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La simulation, ce n'est rien. Donc vous ne pouvez pas avoir d'école qui se réclame de rien. C'est une erreur complète sur ma théorie.
Oui, donc là, on a vraiment paradoxe de cette appropriation.
Oui. Alors, du coup, ça a fait les grands titres partout et tous les gens se sont détournés de Baudrillard, mais sans se détourner de lui, parce qu'il restait une icône, mais une icône...
Parce que c'était le maître qui refusait d'être maître.
Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout de même commencé à comprendre qu'il se passe des choses qui ne sont pas des choses très intéressantes, qui sont très médiatiques, qui sont très... Beaucoup de prestige, beaucoup d'argent est investi là-dedans, etc. Mais on ne voulait pas... On aurait pu, à un certain moment-là, de devenir une espèce de revue, de maison d'édition, etc. etc. Mais c'est pas du travail commercial, on n'est pas payé pour le faire.
La prise de conscience de ça était déjà théorique, c'était déjà...
Tout à fait. Parce qu'il faut bien commencer, il faut bien comprendre que la théorie, ça sert dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Quand on a une histoire d'amour, bon, on peut très bien devenir jaloux, paranoïaque, etc. Mais il faut prendre un certain recul en même temps. Dire, bon... Je comprends comment ça marche. Je comprends qu'est-ce que c'est cette maladie des signes. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je ne peux pas l'arrêter, je peux essayer de l'exacerber pour l'épuiser.
Oui, parce que vous aviez participé finalement à cette diffusion.
C'est-à-dire qu'on peut expérimenter à partir du moment où on comprend un certain code. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'obéir. Ça ne veut pas dire non plus qu'on peut le comprendre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là en jouant sur ce code? Et la théorie est devenue un certain code de mode. On dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pouvait rien faire.
Vous n'avez pas été découragé un peu?
Non, parce qu'on était même porté par la vague.
Oui,
Mais ce que j'ai fait, c'est essayer de ne pas être porté par cette vague-là. On essaie de créer une autre vague à côté. Ouais. Parce que tout de même, ce qu'on apprend de ces théories, c'est que si on n'est pas en avance, on n'existe pas. Et ça, New York, moi, ça me l'a appris sans la théorie française. C'est que, par exemple, j'ai fait, lorsque le numéro Schizoculture, on l'a publié, en 3 semaines, on a vendu 5000 exemplaires. Sur la couverture hier, on avait annoncé numéro 2, c'était presque prêt à partir. On dit bon, non, si on a vendu 5000 exemplaires, pas de numéro 2, pas Schizoculture 2. Alors, au lieu de faire ce que les gens demandaient, qui était la même chose, qu'on fasse un numéro sur l'art, etc., On est allé trouver les Italiens, on a fait un numéro sur la politique, le terrorisme,
oui,
etc. Oui. Et pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il fallait déplacer le terrain, parce que, et après l'autonomie, on a fait un numéro sur la sexualité.
Oui, polysexuel.
Donc, comment faire en sorte que les gens sont toujours pris au dépourvu?
Voilà, ben ça c'est une leçon que vous avez retenue du monde de l'art new-yorkais, c'est-à-dire oui, faire quelque chose où on ne vous attend pas et constamment surprendre.
Oui, tout à fait. Ça venait d'ici, mais ça venait aussi de la théorie. La théorie, qui est comment le capitalisme fonctionne. Ce n'est pas l'objet qui l'intéresse. C'est le fait que l'objet a avoir une certaine fonction à un certain moment. Mais l'objet, ils vont le détruire. Donc, il faut surtout pas s'accrocher à l'objet. Dès qu'on le lance, et on s'aperçoit que l'objet est déjà pris dans un système qui est un système de mode, donc il faut à tout prix casser et se mettre ailleurs.
Donc c'était plus capitaliste que ceux qui prenaient finalement Baudrillard et en faisaient un maître à penser.
Tout à fait. Donc il fallait constamment, et donc pour une revue ça marchait bien, parce qu'une revue c'est pas fait pour gagner un public. Mais je dis à ce moment-là, il faut qu'on perde notre public. Qu'est-ce qu'on peut faire pour perdre notre public? Par exemple pour les universitaires, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut vraiment emmerder les universitaires? Bon, parce que les universitaires sont hypocrites, ils parlent pas d'argent. Et il ne parle pas de sexe. C'est tout ce qui est sous la table. Mais je dis, bon, bah, on va parler de sexe. Comme ça, ouais, ceux des universitaires vont être très mal à l'aise quand ils vont dire ça.
Mais au-delà de la provocation, qu'est-ce que vous cherchez?
Mais ce n'est pas de la provocation, parce qu'en même temps, il y avait un grand débat sur les genders, sur les genres, sur le sexe, sur la pédophilie, etc. Donc j'ai fait un numéro sur la pédophilie.
C'est un thème encore en littérature, je crois, qui vaut la censure.
C'est pas, oui, tout à fait. Bon, or, j'ai fait un numéro sur la pédophilie, en sachant très bien que ça ne serait jamais acceptable, etc. Mais je me dis, bon, bah, qu'est-ce que c'est l'intellect? C'est pas pour donner des clarifications sur des objets qui peuvent être clarifiés, c'est essayer de penser des choses qui sont impensables, qui ne seront jamais vraiment résolues. Alors, je me dis, bon, c'est ça. Alors, on dit, j'ai fait un numéro sur la pédophilie, mais avec un artiste conceptuel américain qui s'appelle Joseph Kosciuck, qui n'est pas pédophile pour un sou. Mm-hmm. Bon, j'ai demandé, je me suis assuré, il y avait un texte de Foucault, j'ai mis ça là, de Kate Millett, ça là, pour que si on nous fait des problèmes, bah, on fait un travail théorique. Oui. En même temps, je me suis aperçu par exemple, voilà, bah, c'est ça l'expérimentation. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'ils pensent, les Américains, de la sexualité? Où est-ce qu'on pense à la sexualité? Alors j'ai cherché, je travaillais avec quelqu'un de la police à l'époque sur l'histoire des crimes, enfin toutes sortes de choses, je n'ai pas le temps de parler. Je me dis, bon, il faut regarder un petit peu comment est-ce qu'on codifie la sexualité aux États-Unis. Alors comme je travaille avec des gens de la police, enfin des gens de l'institut Catone, des juges, j'ai eu accès à des codes. J'ai regardé, bon, je me suis aperçu que chaque État codifie la sexualité de manière différente. Et je me suis dit, bon, tiens, finalement, pour condamner les gens, il faut définir l'objet qui est un objet interdit. Donc finalement, je me suis aperçu au Nebraska, par exemple, on condamne des gens qui font l'amour avec des oiseaux. Des oiseaux? C'est dans le code. Donc le code, il reflète vraiment ce qui se passe. C'est bien ce qu'avait dit Foucault. Ce qui, au 19e siècle, on ne parle pas de la sexualité dans les salons, mais dans les bordels, dans les procès, etc. Tout ça, les documents s'accumulent, on ne fait que parler de la sexualité. Donc j'ai dit, bon, et j'ai regardé, et c'est un numéro où la seule chose qui est pornographique dans ce numéro, c'est la loi. Alors on a mis la loi en grand, c'est ça, dans le numéro, c'était la chose la plus délictueuse, c'est ça. Donc c'est ça, c'est en cherchant, c'est en se demandant, la théorie c'est fait pour vous donner des moyens de chercher, de trouver quelles sont les vraies questions qu'on doit poser dans un certain contexte. Le contexte, par exemple, lorsque la théorie est venue à la mode, c'est de ne pas se dire qu'est-ce qu'on va faire contre cette mode, comment on va l'interpréter, comment on va essayer de contrer la mode. Non, si on sait comment la mode fonctionne, alors on abandonne complètement ce qu'on a donné. Ce qu'on a donné, ça ne nous appartient plus. Alors on va faire autre chose. Et par exemple, de trouver la fiction américaine à la première personne, c'était une exploration de la subjectivité américaine comme objet théorique.
Est-ce que le livre que tu viens de publier en français, mais que tu avais publié en grande partie déjà dans les années 80 aux États-Unis, est-ce que c'est lié un peu à cette période?
Tout à fait. C'était pour un colloque de Verdiglione, qui était le Lacan italien. Alors c'était l'époque où la psychanalyse prenait une vision d'entreprise, Donc il y avait des grands congrès qui étaient faits au Japon, en Allemagne, etc. etc. La psychanalyse, c'était l'exploitation de Lacan. Mmh. Lacan, par le Lacan italien, devenait une grande entreprise culturelle. Alors, ils m'avaient demandé de les aider à trouver des contacts à New York, etc. Et quand ils m'ont demandé de faire un texte sur la sexualité, je me suis dit, j'ai pas envie encore de faire un texte sur Lacan, sur Freud, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Même idée. Qu'est-ce qui se passe dans le présent, aux États-Unis? Alors, je me suis promené un petit peu. J'ai regardé à mon université, j'ai dit, tiens, j'ai regardé en psychologie, il n'y avait pas de psychanalyse, tout était behavioriste. Oui, mais où est-ce que c'est la sexualité? Alors, j'ai trouvé une clinique qui traite les pervers. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et comme j'étais collègue, j'y suis allé, ils m'ont dit, ah, mais vous faites de la sémiotique, c'est très bien. Nous, on a besoin, on fait des tests avec des pervers. Et nos tests sont trop complexes parce qu'on utilise des diapositives. Alors, une diapositive, il y a un tas de facteurs, etc. On n'arrive pas, nos computers, nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour faire ça. Si vous pouvez nous trouver des mots qui vont provoquer des érections, à ce moment-là, on pourra mettre ça sur ordinateur. Alors, je dis, ah, très intéressant, mais pour ça, il faut que je sache ce que vous faites. Donc, je suis venu avec mon magnétophone. Et ils m'ont ouvert complètement la clinique à moi. Je suis allé, et pas seulement chez les docteurs. J'ai été parler aux assistants de laboratoire qui font faire les tests, etc. Uh-huh. Je produisais un domaine.
Ouais.
C'est ça, un domaine que personne ne connaissait.
Uh-huh.
Et pour ça, je documentais, parce que eux, c'était secret, c'était par la police que ça passait, etc. Donc personne ne connaissait l'existence de ça, mais ça se répandait dans les États-Unis, surtout au Canada. Le Canada, c'est là où c'est du grand business, avec des fonds fédéraux, etc. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire des violeurs, des pédophiles, etc. Il faut en faire quelque chose. Mmh. Bon, on peut les mettre en taule, mais si on ne peut pas les mettre en taule, il faut essayer de les guérir, rééduquer. Alors ça, c'est une rééducation qu'on pouvait contrôler théoriquement, parce que ça c'était par des répétitions, par des masturbations contrôlées. L'idée même, c'est ça qui était
assez extraordinaire. On voulait les dégoûter de leur propre fantasme.
Exactement. Il fallait leur faire communiquer leurs fantasmes pour les détruire. Mais c'est exactement la même chose qui se passait avec la théorie. La théorie se communiquait et on la détruisait.
Ouais.
C'était le même système. C'était la société, c'était le capitalisme américain.
Il fallait saturer. Là.
On sature tout.
Ouais.
Comme la théorie française n'est pas différente du reste.
Mmh.
Donc je me suis dit, bon voilà, j'ai donc trouvé un petit domaine tout particulier comme ça, mais qui est mort tout de même, la sexualité. Et puis ça nous donne une clé de la société américaine. Qu'est-ce que c'est que ceci? Mais on détruit les choses parce qu'on les rend emmerdantes, boring.
Ouais.
Ça. Or, qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert la catégorie américaine la plus importante, c'est pas ceci, cela, c'est l'ennui. Et c'est pas nouveau, ça. Les gens des années 30, c'était un ennui chrétien. Dieu est mort et on s'ennuie dans ce monde-là. Pour les jeunes américaines, c'est qu'on est dans un monde qui n'a plus de sens, où notre vie n'a aucune valeur, mais si les choses vont assez vite, on s'ennuie pas. Alors, il suffirait de les arrêter, de faire répéter la même chose. À ce moment-là, les gens ne peuvent plus supporter ça. C'est ce qui se passe avec la sexualité, d'ailleurs. On met les gens dans des couples. Bon, au bout de 2 ans, ça ne marche plus. La sexualité cesse de fonctionner.
Donc,
On s'emmerde.
On s'ennuie, ouais.
Ben oui. Or, c'est là, le système produit de l'ennui. C'est pourquoi il doit aller tellement vite, changer constamment. Mais plus on change, plus c'est la même chose. Mais simplement, il faut varier les plaisirs.
Est-ce que l'ennui, ce serait un accident dans la...
Non, c'est simplement que les gens, en un sens, ne vont pas aussi vite que le système lui-même. Et donc, il faut leur permettre de rattraper les choses. Et puis, en même temps, le capitalisme se réterritorialise. Il a besoin qu'il y ait des familles, il a besoin des institutions, il a besoin que les choses soient réterritorialisées, parce qu'autrement, ça serait le chaos complet. Donc, d'une part, on déterritorialise, d'autre part, on reterritorialise. Et donc, constamment, la théorie, c'est ça, il faut savoir où en sont les choses, à quel niveau. C'est comme les maîtres jurés goûteurs de vin qui goûtent le vin. Est-ce qu'on en est au niveau où la théorie ou le sexe est déjà détruit? Mais où est-ce que ça va aller? Mais il faut expérimenter, savoir. Donc, quand on tombe, moi, je suis tombé par hasard, tout à fait par hasard, sur cette clinique. Mais comme je m'intéressais à ces problèmes, je dis, c'est une mine d'or que j'ai découvert. C'est de la théorie pure, cette clinique sexuelle. Il suffit de les faire parler. Et il parle mal la théorie que je n'ai pas besoin de dire.
Et vous contemplez. Ben, vous contemplez.
Non,
ben...
non, non, mais je relis ce qu'il dit avec mon mode de dépassement. Mais je ne dis rien.
Ouais.
Je leur dis, ah, c'est très bien, c'est intéressant.
Donc vous les faites parler beaucoup.
J'ai fait parler.
Ouais.
Mais c'était ce que j'avais déjà fait avec les artistes américains. Quand je suis arrivé aux États-Unis, les artistes ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est le langage que vous employez? Vous voulez me faire sentir mal parce que vous voulez me faire sentir comme un idiot parce que je ne comprends pas votre langage. Ils étaient très anti-intellectuels. J'ai arrêté, mais les gens se mettaient en colère. Alors je dis, d'accord, racontez-moi ce que vous voulez. Moi, ça m'intéresse, je ne connais pas l'américain. Racontez-moi un petit peu ce que vous faites. Et moi, je vais essayer de décoder ça dans ma tête en me disant, j'ai compris des choses sur l'art parce que j'ai vu les gens s'expliquer de l'intérieur. Mais je ne leur ai pas expliqué ce que je pensais de l'art, moi. D'abord, je ne pensais rien, je ne connaissais pas l'art.
Ouais. Je crois que c'est le bon moment pour aborder peut-être la théorie conversation, vous laisser parler les gens.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, expliquez-moi un peu, est-ce que ça a un sens de dire de théorie conversation, de théorie interview, ou faire de la théorie pendant qu'on converse avec des gens ou qu'on les laisse parler
. D'abord, c'est cette même idée que tout peut devenir théorie, mais il faut constituer, il faut avoir un matériau. La conversation, c'est une forme vraiment journalistique et vraiment, peu prisée de la réflexion. Ouais. Mais pour moi, c'est un moyen de créer quelque chose. Il faut créer des documents sur lesquels on peut réfléchir. Donc, il faut faire une investigation. La conversation, c'est un mode d'investigation d'un domaine.
Donc, créer des documents, oui, là ça éclaire quelque chose. Plutôt que de travailler, on parlait des textes, où vous avez dit, il y a une espèce de fétichisme du texte chez les universitaires, ils prennent des textes tout faits. Tandis que toi, tu vas dans la pratique et tu constitues tes propres documents plutôt que de travailler sur des textes.
Pour moi, ça devient des documents théoriques, mais ce qui en fait des documents théoriques, c'est que je les déplace d'un domaine à un autre. Quand un psychiatre m'explique quelque chose sur les pervers, dans son domaine, lui, il a son propre langage, ses formes catégoriques de pensée. Quand j'ai publié le livre, on m'a dit il faut tout changer, les noms, etc. Parce qu'on va être attaqué. Parce que c'est vrai, je donnais quelque chose. Mais en fait, eux, ils trouvaient ça tout à fait normal. Ce qu'ils disaient, ce que je rapportais, ça n'était pas du tout incriminateur. C'était tout à fait normal dans leur domaine. Mais quand on prend ça et on le met dans un domaine public, c'est scandaleux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le document, ça se déplace lui aussi. Quand on déplace quelque chose, ça devient un document quand on le déplace de son milieu d'origine. C'est ça. À ce moment-là, ça devient un objet théorique parce que ça demande une réflexion et ça pose des problèmes. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que la sexualité américaine si on peut la traiter comme ça?
Et comment tu as traité finalement ces conversations? Comment tu as ajouté du tien dans ces conversations?
Ça dépend à qui on s'adresse. C'est ça, c'est que... Alors, par exemple, avec ces psychiatres, l'idée, c'était comment est-ce que je peux les faire parler? Je ne discutais pas avec eux. Mais je leur posais des questions innocentes. Par exemple, j'ai dit, qui c'est un pervers? Elle me dit, c'est simple. Eux, ce n'étaient pas des psychanalystes, ils n'ont pas cherché dans l'inconscient. Ils disent, de 9 à 5 personnes, après 5 heures, tout le monde. Génial! Quel psychiatre me dirait ça?
Non.
Mais c'est ça. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui peut devenir un pervers. Et donc, déjà... Il déségrégait l'idée de la perversion. C'est que donner la possibilité à n'importe qui de devenir un pervers, il le disait maintenant, les gens vont en Thaïlande et il faut les prévenir à l'avance parce qu'ils vont devenir des pervers. Ils ont la possibilité de coucher avec des gosses, avec des petits garçons et des petites filles, ils vont le faire, ils viendront de pervers. La perversion, encore une fois, je n'ai pas de catégorie morale là-dessus, mais c'est-à-dire qu'eux, ils sont pris dans des situations différentes et puis on devient ce que la situation veut qu'on soit. Mais c'est la même chose pour les matériaux. Un matériau qui est pris ici, et qu'on met ailleurs, c'est plus le même matériau du tout. Ça devient un matériau théorique. Parce qu'on le regarde avec une distance qui n'est pas celle que les psychiatres avaient, par exemple, ni les artistes avaient par rapport à leur matériau. Alors, quand j'ai affaire à ça, j'ai écouté, comme les psychanalystes font. J'ai posé des questions, mais je n'ai pas essayé de discuter avec eux. Je n'ai pas essayé de dire, mais ce que vous dites me rappelle ce que Cage disait, etc. Deleuze et Guattari.
Ouais.
Je gardais ça pour moi. Je dis, tiens, c'est intéressant ce qu'il disait. Ça me faisait penser, tiens, c'est parce que je ne comprenais pas que l'art fonctionnait de cette manière-là. Et donc, j'en tirais un enseignement pour moi-même, mais je n'étais pas obligé de le formuler.
Ouais. Par contre, cet enseignement, ou du moins ton écoute, pouvait aller chercher des affirmations, des énoncés dans le flot de ce qu'on
bien
disait.
Parce que
j'imagine que tu n'as pas publié intégralement tout ce qu'on t'a dit, et tu n'as pas retenu non plus intégralement tout ce qu'on t'a dit. Tu es allé chercher, tu as recollé, j'imagine.
Parfois oui, parfois non. Pour l'essentiel, par exemple, lorsque j'ai publié des interviews d'artistes, Bon, j'ai bien sûr, on fait toujours un editing comme ça. Bon, mais j'ai gardé ce qui me paraissait intéressant. Mais ce qui m'intéressait, moi, ça intéressait les Américains aussi, mais pour des raisons différentes. On n'est pas le même genre de lecture. Il faut accepter le fait qu'on ne communique pas. Ce n'est pas si mal de ne pas communiquer. On voit des choses différentes. Les Américains, quand j'avais un interview avec Bob Wilson ou avec, je sais pas, Steve Reich, etc., eux, ils voyaient très bien ce qu'ils connaissaient de la musique. Ça. Moi, je voyais que le rapport entre la musique et la théorie. Mais je n'ai pas besoin. J'aurais pu l'écrire, mais je n'ai pas forcément besoin de l'écrire. J'en tirais une certaine connaissance sur les rapports de l'art et la théorie, puis ça me permettait de fonctionner dans un milieu artistique.
Donc, tu acceptais quand même que... C'est assez drôle. Dans tes conversations, tu acceptais qu'il n'y avait pas de fusion entre toi et...
C'était
deux domaines. Par contre, tu allais récupérer quelque chose.
Tout à fait. Deleuze était être contre le dialogue. Il a toujours condamné le dialogue. Dire, bon, si on est du même avis, alors c'est pas la peine de parler. Si on n'est pas du même avis, on n'arrivera à rien. Moi, c'est différent. Ce que j'ai fait, par exemple, en Amérique, c'était de laisser les gens parler. Pour deux raisons. C'est ce qu'on a une expression en anglais. On laisse les gens se pendre eux-mêmes. Donc, moi, je dis rien. Je les fais dire. Mais ce qu'ils vont dire, je ne rends pas compte de ce qu'ils disent.
Parce que de ton point de vue théorique.
Oui.
Parce qu'eux le disent de leur point de vue d'artiste.
Bien sûr, bien sûr.
Et comme le psychiatre le disait.
Comme le psychiatre en France, lorsqu'il parlait d'Artaud, etc. Je discutais, mais pour l'autre, je laissais parler. Je dis, bon, ce qu'il dit, il en prend de la responsabilité. Mais il en prend de la responsabilité vis-à-vis de quelqu'un qui pense être d'accord avec lui. À partir du moment où je le déplace du milieu psychiatrique à un milieu littéraire ou à un milieu philosophique, le matériau n'a plus le même sens. C'est ça. C'est là l'idée du déplacement. C'est que, donc, avec eux, il suffira encore de faire parler les gens. Et puis de les laisser se faire prendre eux-mêmes par des gens qui vont comprendre autre chose. Alors bien sûr...
Se faire prendre eux-mêmes, c'est-à-dire que leur montrer, peut-être pas leur montrer, mais récupérer ce qu'il y a de présent dans ce qu'ils disent, ou enfin ce qu'il y a de présent de la société dans ce qu'ils disent.
Oui, mais c'est toujours là, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être complètement singuliers dans leur discours, et en même temps que leur discours puisse vouloir dire quelque chose d'entièrement différent ailleurs. C'est clair. Alors évidemment, maintenant, la société commence à niveler tout. Ce qui se dit dans le monde artistique, c'est ce qu'on se dit dans le monde universitaire, c'est ce qu'on se dit dans le monde du commerce, etc. Mais constamment, ce qui permettait, c'est pourquoi j'ai arrêté la revue, c'est qu'il n'y avait plus de jeu. Les milieux ont commencé à se ressembler tous parce qu'ils ont tous commencé à communiquer. C'était la globalisation interne avant la globalisation externe. Tous les murailles qui séparaient les domaines les uns des autres, les activités les uns des autres ont commencé à s'écrouler. C'est comme le surréalisme qui a été mis au service de la publicité, etc., etc. La publicité a été utilisée par l'art, donc l'art a utilisé la publicité, etc. Donc le système capitaliste rend tout plus ou moins interchangeable. Mais une fois qu'ils ont rendu les choses interchangeables, on va dire, ah mais la publicité, c'est pas de l'art. Oui. Mais on va dire, l'art, c'est pas de la publicité. Mais à ce moment-là, on est déjà au niveau des zombies. Oui. C'est que, en fait, tout est devenu interchangeable, mais on redonne une identité séparée à des choses qui communiquent. Thank you.